had something to do with this.
Don't be afraid.
You understand? I'm trying to help, that's all. That's all. But you must cooperate. One, two. Let's start all over again.
Toi, tu cherches tes problèmes?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs RIS de Radio Canu, Radio Rebelle, Radio Devant l'Éternel. Non, pas du tout. Il est 21h, passé de 3 minutes, et vous écoutez l'émission Angle Mort, l'émission de critique sociale et de sciences sociales critiques, émission assez intermittente en ce moment. Et je m'en excuse une fois de plus si besoin est. Au menu de ce soir, on va parler de... je voulais parler un petit peu d'environnement, sachant que je suis pas du tout un spécialiste de la question. C'est quelque chose que j'avais mis un peu de côté pendant longtemps, moi, dans ce qui animait, on va dire, mes colères et mes engagements. Et en fait, je voulais parler d'une bande dessinée qui a contribué à à réévaluer, on va dire, la place des questions d'environnement, d'écologie, de réchauffement climatique et tout ça dans chez moi. Et du coup, je m'étais dit, tiens, ça serait sympa d'en parler dans l'émission. Et à côté, après, on passera une... Donc je vais présenter cette BD, on fait un petit résumé. Et puis ensuite, je rediffuserai une conférence sur la question aussi, une conférence intitulée « Comment l'éco-citoyenneté conforte un ordre social et inégalitaire et peu écologique ?» Une conférence de Jean-Baptiste Combi, dont il a déjà été question sur cette émission, puisque j'avais déjà présenté un texte qu'il avait écrit avec Mathieu Grosstête. Donc là, je vous renvoie toujours aux anciennes émissions qui sont accessibles sur Internet, sur notre blog des émissions, de l'émission Angle Mort, donc sur le site Radio Canu, il faut aller dans le blog des émissions, et puis aller sur l'onglet Angle Mort, et puis on a toutes les anciennes émissions. Voilà, donc avant de lancer cette présentation de Saison Brune, pour le dire, puisque j'ai pas dit le titre encore, BD qui date de 2012, de Philippe Squarzoni. Eh bien, un petit peu de musique pour m'installer.
Au départ des courts-circuits,
au croisement des contraires.
Et on va s'écouter Free Agents Brass Band avec le titre We Made It Through That Water, qui est un peu dans le thème puisque c'est un titre qui vient de la bande originale de la série. De la série. Ah, ça y est, le petit trou de mémoire. Trémé, voilà, c'est revenu. Donc Trémé qui parle de la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Et l'ouragan Katrina, hein, c'est pas quelque chose qui arrivait comme ça. Si, c'est tombé du ciel d'une certaine manière, mais on pourrait y voir un lien avec les dérèglements climatiques en cours. Et c'est une belle métaphore de ce qui pourrait nous arriver plus tard si on ne fait rien. En tout cas, de la manière dont socialement on pourrait gérer ce genre de situation de crise, à savoir... dans les inégalités sociales et dans le renforcement du pouvoir, de l'argent, etc. Et donc ce titre est issu de la BO de Trémé.
FEMA, we gon' need more than 10 stacks. Wherever you at, St. Bernard to the Cali, yo. One time, do it big for De Niro. H-Town all the way to the A. We appreciate the love, but my people can't stay. We the misery.
We'll be right back. cherche l'angle mort. Le vrai bug, le forage.
Donc toujours écoute de Radio Canu, émission Angle Mort. Donc on vient de s'écouter, je l'ai dit, Free Agents Brass Band avec le titre We Made It Through That Water. Et donc qui est dans le thème, je le disais, puisqu'il est question ici de l'ouragan Katrina. Et dans la bande dessinée que je vais présenter maintenant, il est question à plusieurs reprises de cet ouragan comme d'un cas d'école, on va dire, de la manière dont société capitaliste gère les problèmes climatiques. Et donc voilà, cette BD que je voulais présenter s'appelle Saison Brune. Elle est réalisée par Philippe Squarzoni, dont je vous lis là la petite présentation biographique proposée par l'éditeur. Après une enfance passée en Ardèche puis à l'île de la Réunion, Philippe Squarzoni s'installe à Lyon pour suivre des études de lettres. Entre 1994 et 1996, durant la guerre en ex-Yougoslavie, il se rend plusieurs fois en Croatie comme volontaire dans un projet de résolution du conflit. L'année suivante, il va au Mexique comme observateur des droits de l'homme dans une communauté zapatiste du Chiapas. Il y retourne en mars 2001 pour suivre la marche zapatiste sur Mexico. Alors militant de l'association Attaque, il publie ses premiers albums de bande dessinée d'intervention politique. Garduno, en temps de paix, c'est en 2002. Et Zapata en temps de guerre en 2003. Deux livres qui le feront connaître auprès d'un vaste public. Dans Torture Blanche, qui paraît en 2004, il décrit son voyage en Palestine et en Israël comme membre d'une mission de protection du peuple palestinien. Et c'est en 2006 qu'il publie Dol, bilan des politiques libérales menées en France au tournant du 21e siècle. Dans son dernier album, dont il est question là dans cette émission, Saison Brune, donc, l'auteur s'intéresse à la question du réchauffement climatique. Déstabilisé par l'ampleur du problème, sans cesse renvoyé à de nouveaux questionnements, il s'immerge dans une investigation qui l'occupe durant près de 6 années. Et donc dans cette bande dessinée, en fait, il se met en scène lui-même en train de mener ses investigations sur la question de l'environnement. Donc la bande dessinée commence où on le voit en train de terminer son livre précédent, qui est sans doute donc Dol, dans lequel il est question des politiques libérales menées en France au tournant du 21e siècle. Et il raconte que dans ce livre, dans ce premier livre, enfin c'est pas son premier, mais dans ce livre-là, il consacre une partie aux questions, aux trahisons des promesses qui avaient été faites sur l'environnement. Et en fait, il en vient à se dire qu'au fond, lui, il connaît pas grand-chose, ce qui est d'ailleurs aussi mon cas. Et donc il va aller chercher à comprendre en bouquinant sur le sujet, faire un tour d'horizon de la question, et c'est pas glorieux, dit-il. Donc voilà, cette bande dessinée met en scène souvent des personnes, des chercheurs souvent, ayant travaillé sur un angle ou l'autre de la question, question vaste en fait, et ces chercheurs exposent où on en est aujourd'hui, les connaissances qu'on a sur les questions d'environnement, les problèmes qui se posent. Donc avant d'en venir un peu plus dans le contenu, il faut quand même souligner que le dessin est très très joli, hein. C'est tout en détail, c'est très réaliste. On voit souvent, donc c'est souvent des individus en train de s'exprimer qui sont dessinés. On a aussi des paysages, des graphiques, beaucoup de détournements de publicité qui sont bien sentis, et puis parce qu'ils montrent en gros l'association faite dans nos sociétés capitalistes entre consommation de marchandises très nocives sur le plan de l'environnement, avec donc qui associe ça avec le thème de la liberté, de l'espace, etc. Donc souvent voilà, il y a un lien entre l'illustration, on va dire, le dessin et ce qui est en train d'être raconté. On a aussi pas mal d'images de cinéma, quelques portraits des joyeuses gueules de nos dirigeants. Et voilà, donc ça c'était pour faire une petite présentation quand même aussi du côté visuel, qui rend la lecture. Ça, peut-être pas plus légère, c'est pas forcément une BD qui se c'est pas très léger, pas très joyeux d'ailleurs, mais en tout cas c'est assez dynamique, ça se lit bien, hein. Donc voilà, donc l'introduction de ce livre expose en quelques pages les principales données, on va dire, du problème climatique. Il explique d'abord comment fonctionne le climat de la Terre, comment il est modelé sous la combinaison de différents facteurs, la composition de l'atmosphère, la disposition des continents, la circulation des océans, etc. Et donc présente ensuite les grands cycles climatiques, l'alternance d'âge glaciaire et interglaciaire, sachant qu'aujourd'hui, donc, pour ceux qui ne le savent pas comme moi, on est dans une période interglaciaire qui connaît donc des variations de climatiques, mais qui grosso modo se caractérise par une certaine stabilité. Et donc note que, faut savoir, entre une période glaciaire et la période actuelle, la différence de température moyenne est de 5 degrés. Et donc c'est un chiffre assez important parce que ce qui se joue actuellement, c'est justement un changement qui pourrait dépasser cet écart significatif d'un changement d'air climatique quand même. Donc c'est pas rien. L'auteur en vient ensuite à ce qu'on appelle l'effet de serre, les gaz à effet de serre, qui sont essentiellement la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote et l'ozone. Bon, c'est une explication qui est nécessairement un tout petit peu complexe parce que ce qui montre bien, c'est qu'il y a de multiples facteurs qui interagissent sans cesse sur le climat. Mais ça permet de mieux savoir de quoi on parle pour un novice, du coup, comme moi. Et voilà, donc les gaz à effet de serre, pour rappel, c'est des gaz présents en très petite quantité dans l'atmosphère qui régulent en grande partie l'équilibre des températures sur notre planète. C'est-à-dire que ça accompagne et ça va amplifier les différents cycles climatiques. Et cycle climatique étant lié d'abord et avant tout à la position de la Terre autour du Soleil. Donc c'est quelque chose qui accompagne et amplifie. Mais, et là je cite l'auteur, si tout au long du quaternaire les concentrations de gaz à effet de serre ont suivi les évolutions du climat, elles sont toujours restées entre des valeurs limites, ne dépassant jamais certains plafonds. Et donc ça c'est vrai jusqu'en 1850. Et 1850 c'est quoi ? Eh bien c'est le début de l'ère industrielle, l'essor du capitalisme on pourrait dire aussi, où l'on observe donc une augmentation exponentielle de la quantité de gaz à effet de serre, donc qui se découpe là on va dire des variations climatiques. Et qui vient renforcer les effets possibles de réchauffement. Et donc précise ensuite les raisons de l'augmentation des différents gaz à effet de serre. Donc là je lis un petit extrait parce que souvent l'auteur se met en scène en train de discuter avec ce qui est sans doute sa compagne, et lui fait un état des lieux un peu de ses lectures et de ses réflexions. Donc elle lui demande alors: ce réchauffement c'est si grave que ça? C'est un peu compliqué parce que la concentration actuelle de CO2, c'est une première depuis que l'homme existe. Et comme la situation est inédite, il y a plein d'incertitudes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a modifié la composition de l'atmosphère et que ça va amener une augmentation de température de quelques degrés. Et ça veut dire combien en plus ? Là, justement, il n'y a plus de certitude. Ça dépend beaucoup de ce qu'on va faire ou pas. Mais si on ne réagit pas, les perturbations pourraient être du même ordre qu'un changement d'air climatique. Aujourd'hui, le CO2 est à 380 ppmv. Les climatologues estiment qu'il y a une sorte de seuil critique autour de 400 ou 450 ppmv. Et c'est pour quand ? Si on poursuit les tendances actuelles, on attendra ce niveau d'ici 2030. Donc après cette introduction, l'auteur reprend la question des changements climatiques sous différents angles, le tout entrecoupé de moments de réflexion personnelle. Donc d'abord il va présenter l'histoire du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est une communauté rassemblant un millier de scientifiques du monde entier, qui ont pour tâche de faire une sorte de synthèse, un état des lieux des connaissances scientifiques parues dans la littérature scientifique sur le changement climatique. Et donc, le point important ici, c'est que c'est pas un organe, on va dire, de lobbying associé à une entreprise ou quoi que ce soit, et qui représenterait un tout petit pôle de l'espace scientifique. Là, pour le coup, c'est un regroupement d'une énorme partie des scientifiques et qui fait une synthèse de ce qu'on sait sur le sujet à partir de ce qui a été publié donc dans la littérature scientifique jugée par les pairs, etc., dans des revues reconnues. Donc il donne la parole donc là à deux scientifiques du GIEC notamment, qui exposent comment le climat fonctionne, ce qu'on sait aujourd'hui, ce dont on peut être sûr, c'est à savoir que non seulement on ne peut plus mettre en doute la réalité du réchauffement, mais on a également la certitude que c'est bien l'activité de l'homme qui en est responsable. Ça aussi c'est un autre point qui a été à l'origine de débats apparemment, et qui aujourd'hui ne fait plus débat. Et ils exposent aussi, c'est ça qui est bien, parce qu'on est dans une démarche quand même assez scientifique, hein, c'est-à-dire qu'ils exposent des outils qui permettent de faire ces constats. C'est pas simplement on dit une vérité et puis voilà, c'est, on présente les outils qui permettent d'en arriver là. Donc dans ce récit, je cache pas qu'il y a plusieurs choses qui font leur effet sur le lecteur, c'est-à-dire qui font vraiment permettent une prise de conscience, quoi. Déjà, ce qui fait son effet, c'est qu'on voit bien qu'une partie des changements sont déjà inévitables. Alors que l'auteur montre que l'enjeu n'est plus aujourd'hui d'éviter le changement, mais de ne pas atteindre un stade critique au seuil duquel des effets incontrôlables pourraient se déclencher. Donc c'est l'idée, notamment, on a un système à seuil. Et pour comprendre ça, on peut prendre l'exemple d'un glacier qui, quand ça se réchauffe, il va commencer par fondre lentement. Et là, tout d'un coup, on va passer un seuil et ça va s'accélérer parce que voilà, il y a un niveau de réchauffement où ça va s'emballer. Et donc, c'est un peu comme ça le risque actuel. Et on ne sait pas où est trop le seuil, mais on n'en est sans doute pas très loin. Et ce qui fait son effet également, deuxièmement, c'est les temporalités annoncées, du coup, qui sont courtes, qui font rendre la chose pensable dans l'avenir, enfin, c'est-à-dire que c'est un avenir court, quoi. J'ai dit tout à l'heure, 2030 par exemple, bon, c'est une vie d'homme. Hein. Voilà, et un autre élément, moi, qui m'a assez marquant quand on lit et qui produit son effet, c'est qu'on comprend bien la lecture que même si on parvient à limiter aujourd'hui l'augmentation des émissions de gaz, ce qui n'est pas le cas encore, il existe certains mécanismes qui peuvent s'auto-entretenir. C'est-à-dire, il parle de processus de rétroaction. Bon, par exemple, très simple pour illustrer, toujours sur la fonte des glaciers, bon, bah, ça fond, bah, le sol, du coup, il devient noir plutôt que blanc. Et bah, du coup, le noir, ça accélère le réchauffement aussi. Donc voilà, c'est un effet de rétroaction. Et donc, il y en a plein d'autres comme ça qui jouent sur l'accélération des émissions de gaz à effet de serre, sur l'accélération du réchauffement, voilà, qui peuvent tenir à la végétation, à l'océan, etc., et qui sont exposés dans cette bande dessinée. Voilà, donc ensuite d'autres angles sont abordés. On s'arrête sur la question de l'énergie, en reprenant tour à tour donc, les différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine dans nos sociétés industrielles et de consommation. En s'interrogeant aussi sur ce qu'impliquerait un changement réel. Et donc là, il souligne comment le problème est insoluble sans une prise en compte des modes de vie hein, qui dépendent en effet des énergies qui sont très énergivores dans les sociétés occidentales capitalistes. Et une explication toujours appuyée de chiffres et illustrée voilà, donc souvent par des détournements de publicité bien sentis. Il évoque ensuite la question des déplacements de population qui est super importante, liée aux modifications du climat, aux sécheresses, aux ouragans, aux inondations, ce que ça soulève aussi comme problème dans l'organisation des sociétés. Il évoque les risques aussi sur la santé humaine du réchauffement, sur les écosystèmes, sur l'agriculture, sachant qu'à chaque fois on comprend bien que. Et ça, c'est un point important de ce livre qui fait vraiment toute sa valeur à mes yeux. C'est que ce qui montre bien, c'est que ceux qui sont les plus exposés sont toujours les pays pauvres, qui sont pourtant les moins responsables de la situation actuelle, parce que c'est eux qui consomment le moins d'énergie. Il revient aussi sur la question de l'épuisement des énergies fossiles. Donc, c'est à la fois un problème, cet épuisement. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir de moins en moins de pétrole ou de moins en moins de gaz ou des trucs comme ça. C'est un problème parce qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de se passer de ces énergies et en même temps c'est pas une solution à l'émission des gaz à effet de serre parce que cet épuisement des énergies fossiles aura lieu trop tard en fait pour régler la question qu'il faut régler beaucoup plus vite. Donc là je cite l'auteur, en fait nous sommes pile dans la mauvaise situation. Il reste suffisamment de pétrole, de charbon et de gaz pour engendrer un dérèglement climatique majeur, mais il n'en reste pas assez pour fournir bien longtemps l'énergie nécessaire à nos sociétés. Les deux crises ne se compensent pas. Et l'une ne peut répondre à l'autre. Ça fait juste deux bonnes raisons de réduire les consommations d'énergie. Bon, je dis à chaque fois, je cite l'auteur, des fois, c'est pas l'auteur directement qui parle, hein, c'est aussi les personnes qui l'interrogent. Bon, là, en l'occurrence, je sais plus exactement qui dit ça. Voilà, donc le livre s'intéresse ensuite aux énergies renouvelables, et là, en soulignant comment certaines sont de fausses solutions, et comment, de manière générale, ça suffit pas, c'est des réponses partielles. Car dans tous les cas, on peut pas faire autrement en fait que diminuer la consommation d'énergie, c'est ce qui ressort de ce livre. Et donc ce qu'on remarque notamment, c'est que quand on développe des énergies alternatives, on va dire, bah, ça fait pas diminuer pour autant l'usage des énergies fossiles, parce que ça vient simplement s'y ajouter. Parce que dans le même temps, la consommation d'énergie augmente toujours plus. Voilà. Et de manière générale, ce que montre bien le livre, enfin, ce sur quoi il insiste, c'est que les solutions offertes par le progrès technique. Ça règle pas grand chose parce que souvent elles pourraient être mises en place que trop tard. Là-dessus, il aborde aussi la question du nucléaire, parce que je sais que certaines personnes peuvent défendre le nucléaire justement pour dire ah bah là c'est une solution au réchauffement climatique parce que c'est contrairement au pétrole ou à d'autres sources d'énergie, celle-ci n'émet pas de gaz à effet de serre ou peu. Mais là aussi, il montre très bien le livre comment c'est une fausse solution à cette question-là. Et donc là, je vous renvoie au livre pour parce qu'il est très bon, convaincant sur ce point-là et je ne vais pas non plus tout présenter. Je vais faire une petite citation par contre. Quand j'ai commencé à travailler sur le réchauffement climatique, ça m'a empêché de dormir pendant un moment. Je me réveillais la nuit en me disant « il faut faire quelque chose, il nous reste si peu de temps ». Et puis le temps passe. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir peur pendant 2 ans. Le problème également, c'est qu'on ne voit pas le réchauffement en cours. La crise climatique est encore trop lointaine, trop abstraite pour bousculer nos priorités du moment. Au quotidien, nous ne remarquons rien. Par ailleurs, dans nos pays, il ne se passe rien de particulier. Il continue de neiger en hiver. Nous ne remarquons rien. Évidemment, ailleurs dans le monde, certains sont déjà victimes du réchauffement. 300 000 morts selon l'ONU. 300 000 personnes dans la Corne de l'Afrique, au Bangladesh, en Inde ou au Vietnam. Mais ces morts sont dues à l'aggravation de problèmes déjà existants. Sécheresse, malnutrition, inondations, rien de manifestement climatique entre guillemets. Par ailleurs, les victimes du réchauffement meurent lentement, l'une après l'autre. Drame diffus, non médiatique, atomisé toute l'année sur toute la planète. Les morts de tous les jours ne valent pas les morts d'un jour. Des petites vies dans de petites cases. Et nous ne remarquons rien. Donc bref, vous aurez compris que c'est un livre propice à une prise de conscience. On pourrait le juger un peu catastrophiste, mais c'est peut-être que tout simplement... La catastrophe, on va dire, à l'échelle planétaire, par opposition à des catastrophes plus localisées et plus permanentes, plus insensibles, et bien cette catastrophe à l'échelle planétaire n'est peut-être pas si impossible que ça. C'est un livre aussi assez pessimiste, mais qui n'est pas pessimiste par nature, hein, ce qui montre simplement que, de la manière dont se pose le problème, et vu le fonctionnement de nos sociétés sous le capitalisme moderne, la probabilité d'une réponse à la hauteur des enjeux est très faible. C'est en ça qu'il est pessimiste. Tout en montrant justement les solutions qui pourraient être appliquées. C'est pas juste être pessimiste pour être pessimiste. D'autres éléments importants, c'est que voilà, il souligne bien les inégalités devant les perturbations climatiques. C'est pas non plus un livre de morale écologiste dépolitisé. Même si il va souligner que le nœud du problème réside dans nos habitudes de consommation, dans le modèle économique de la croissance forte, vorace en énergie. Il met très bien en évidence le lien entre le système capitaliste et la situation actuelle, les inégalités de contribution des différents pays en fonction de leur niveau de développement industriel, et souligne que la confiance dans les progrès techniques pour faire face aux enjeux actuels est une erreur. Alors du coup, la limite, c'est peut-être justement peut-être un peu trop d'insistance mise sur la question de la modification individuelle des comportements, mais en fait, justement, là-dessus, il évite, je trouve, très bien, enfin plutôt bien, cette chose, moi, qui m'agaçait, qui faisait que pendant longtemps l'environnement me touchait un peu moins, c'est-à-dire notamment cette thématique de la sobriété. Et donc quand même, ce livre a réussi, moi, à me réconcilier avec cette thématique qui m'agaçait un petit peu, qui pose toujours à mes yeux quelques problèmes, mais qui plutôt en ce que il n'est pas assez mobilisateur, c'est pas un mot d'ordre positif, il souligne plutôt des contraintes, et donc à mon avis, voilà, on ne peut pas vraiment impliquer un mouvement de masse avec un mot d'ordre comme ça. Il faudrait réussir à montrer en quoi c'est ce qu'on appelle sobriété est en fait une libération de la vie. Donc voilà, c'est tout l'enjeu, voilà, de ce truc qui amène à réfléchir et qui, moi, est la question, une des questions importantes sur la question d'environnement qui explique la conférence que je vais passer derrière, c'est que la question, en fait, c'est pas une question de choix individuel, moral, etc. C'est ça le point important, je trouve, qui ressort de ce livre. C'est qu'il faut des actions politiques fortes sur l'organisation sociale, urbaine, économique, et non pas des incitations à des changements de comportement dans une structure inchangée, comme c'est le cas aujourd'hui, dès qu'on parle d'écologie. Et donc la question, c'est aussi celle du mode de décision politique, de la démocratie. Et ici, je cite la belle citation de Castoriadis, du philosophe Castoriadis, qui est dans la dernière page du livre. Une société vraiment libre, une société autonome, doit savoir s'auto-limiter, savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ou qu'il ne faut même pas essayer de faire, ou qu'il ne faut pas désirer. Mais donc c'est une question collective avant d'être individuelle. Et donc la question démocratique ici, c'est bien la réappropriation des décisions collectives qui façonnent nos vies et nous obligent après de consommer beaucoup d'énergie, en l'occurrence actuellement. Voilà, donc pour présenter pour finir cette présentation un peu hachée et très artisanale, je voulais refaire une dernière petite citation avant de faire une petite pause musicale. Avril 2009. Il y a 3 mois, j'ai été invité au festival de Bastia. J'ai d'abord pensé décliner l'invitation. Donc là, parce qu'il y a beaucoup de passages du livre, je fais une incise, hein, qui renvoie justement sur la question de cohérence individuelle entre ce qu'on sait des risques actuels liés à l'environnement et en même temps de nos pratiques, par exemple de prendre l'avion, etc. Donc là, c'est là qu'il est question notamment, c'est qu'aller à Bastia, il pensait prendre l'avion. J'ai d'abord pensé décliner l'invitation avec regret, puis j'ai pensé au bateau, qui est beaucoup moins nocif. Quand les structures existent, donc le transport collectif, la sobriété, l'autolimitation, les choix individuels peuvent avoir du sens. Mais les changements politiques restent indispensables. Il y a 2 ans, en contradiction complète avec les conclusions du Grenelle de l'environnement, Nicolas Sarkozy a décidé d'ouvrir les aéroports corses aux vols low cost, pourrait dire une autre incohérence, c'est aussi Macron qui développe les bus pour remplacer des voies de train qu'on laisse dépérir. Il y a un super documentaire là-dessus sur la mise à mort de la SNCF qui s'appelle Mensonges et vérités sur la SNCF. Par un auteur qui fait des trucs très, très bien, mais dont j'ai oublié le nom là. Donc voilà, je reprends. Nicolas Sarkozy a décidé d'ouvrir les aéroports corses aux vols low cost. Inertie du système, court terme et idéologie dominante. Incompatibilité entre les intérêts économiques dominants et les exigences climatiques. Une autre histoire a commencé, sans vraiment commencer. Dans le Montana, il existe une cinquième saison, un moment suspendu entre l'hiver et le printemps, entre le gel et le dégel. Une saison brune, intermédiaire, où les glaces ont commencé à fondre, mais où le printemps n'a pas encore affirmé sa présence. Pourtant, il faudra bien mettre fin à la décision. Si la principale marge de manœuvre dont nous disposons est la maîtrise de l'énergie, il va bien falloir se décider à mettre en place les politiques nécessaires. Et plus nous aurons de temps pour faire la conversion, plus tôt nos sociétés organiseront cette régulation volontaire, mieux nous pourrons atténuer les chocs à venir. Mais si l'on attend trop pour réagir, les contraintes seront brutales. Elles seront subies au lieu d'être choisies. Elles se produiront dans un contexte de pénurie et d'accroissement des inégalités. Comment nos sociétés, confrontées à des ressources déclinantes, secouées par les premiers bouleversements climatiques, réagiront-elles ? Risque de conflits, guerre pour les ressources, dérive autoritaire, déclin de la démocratie. Les expériences passées de réaction aux événements extrêmes donnent un triste aperçu de ce à quoi seront soumis les plus démunis et de forme que pourrait prendre le monde à venir. Nous entrons dans une histoire faite d'inconnus, de tensions, qui mettra nos valeurs à l'épreuve. Le Dust Bowl des années 30, le tsunami de 2004, le chaos de la Nouvelle-Orléans.
Their wealth is our poverty. Ask a brother who's been downsized if he's getting any deal.
Et on enchaîne donc avec une petite pause musicale. Avec Drowning Dog et le titre Their Wealth is Our Poverty.
Question of class.
What's class got to do with it?
Ask a brother who's been downsized if he's getting any deal.
Question of class.
What's class got to do with it?
Their wealth is our poverty.
These discussions of class are not part of the usual conversation in American political life.
Living in the shadow of a nuclear bomb.
Yeah. Voilà donc pour... Ouh, c'était peut-être un peu fort, hein. Désolé de vous avoir réveillé. Donc on vient de s'écouter Drone in Dog, Their Wealth is Our Poverty. J'en ai terminé avec cette présentation de la bande dessinée Saison Brune de Philippe Squarzoni et j'espère vous avoir donné envie de le lire. Parce qu'il est très bien. J'enchaîne sans plus tarder puisque je voulais passer aussi une petite intervention d'une vingtaine de minutes et il est 35 donc ça devrait rentrer. Une intervention de Jean-Baptiste Combi qui est sociologue, maître de conférences à Paris 2, spécialiste de sociologie des médias, de la construction de ce qu'on appelle les problèmes publics. C'est une intervention qui a eu lieu au 5e congrès de l'Association française de sociologie en 2013 je crois. Lors d'une table ronde intitulée « Environnement et inégalités sociales, les sciences sociales face aux différents programmes de modernisation écologique ». Et l'intervention de Jean-Baptiste Combi est intitulée « Comment l'éco-citoyenneté conforte un ordre social inégalitaire et peu écologique ». Donc, il faut dire aussi que Jean-Baptiste Combi est l'auteur d'un livre intitulé « La question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public » chez Raison d'agir, qui est paru en 2015, donc c'est assez récent. Et qui, voilà, c'était un peu d'un. Ça revient à insister dans la continuité donc, de ce que je disais à propos de cette BD Saison Brune sur la nécessité de prendre en compte le social, les modes de production et de consommation dominants dans ce qu'on qualifie généralement de problèmes environnementaux. Et donc là-dedans, notamment, Combi critique une manière de traiter les problèmes d'environnement de manière individualisante, morale, dépolitisée. Voilà, donc je lance tout de suite cette intervention.
Bon, à en croire les injonctions éco-citoyennes, qui ne sont d'ailleurs pas inédites, mais qui se sont démultipliées depuis une dizaine d'années, je donnerai deux, trois clés d'explication à cela, il conviendrait dorénavant de rouler modérément, de minimiser le recours à l'automobile, de trier ses déchets, de préférer les douches au bain, de manger des fruits de saison, etc., pour prétendre à un comportement citoyen. À défaut, on encourt le risque d'être taxé d'insouciance, d'irresponsabilité, d'inconscience, voire d'égoïsme. Bon. Donc, ce qui est intéressant avec l'éco-citoyenneté, c'est qu'il faut bien l'avoir en tête qu'il s'agit simplement de la partie émergée d'un iceberg individualisant qui se traduit, en tout cas les programmes de modernisation écologique s'accompagnent de tout un tas de mesures très prégnantes, notamment sur la question des enjeux climatiques sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, donc un registre de politique publique dite incitative qui consiste en fait à gouverner les conduites individuelles. Dans l'espace du débat public, en particulier dans les journaux télévisés, la manière dont ces questions sont traitées par les journalistes, on a affaire là aussi à une construction de l'information qui a pour enjeu de sensibiliser le plus grand nombre. Par exemple, sur la question climatique, ce que j'ai montré, c'est que plus on parle du climat dans les médias, plus on parle des conséquences des changements climatiques et moins on parle des causes. Et les journalistes expliquent très clairement que c'est pour sensibiliser et poursuivre l'effort gouvernemental. Bon. Donc, je passe assez vite là-dessus, j'ai fait quelques publications auxquelles je me permets de renvoyer. Plus largement, on peut aussi réfléchir. Enfin, je trouve intéressant de penser la construction sociale des problèmes publics en termes de lutte normative. Je m'appuie là sur une réflexion de Lilian Mathieu. La définition principale d'un problème qui s'impose, c'est elle est toujours portée par un groupe social qui, en imposant cette définition du problème, impose aussi ses propres valeurs, ses propres normes. Ça, c'est un peu le cadrage, la perspective théorique. Donc, ce que je voudrais discuter ici, c'est de la façon dont les prescriptions, la rhétorique éco-citoyenne participent à la conservation d'un ordre social, ordre social inégalitaire. Bon, alors j'ai mis peu écologique, je devais être de bonne humeur ce jour-là, ou généreux, mais on pourrait dire un ordre social dévastateur pour la planète. Alors, qu'est-ce que j'entends par ordre social? C'est important à préciser. On peut distinguer deux facettes indissociables de l'ordre social. L'une correspond à l'État sur une période et un territoire donné des relations entre les groupes sociaux, et l'autre renvoie au mécanisme qui, en structurant la distribution des richesses matérielles et symboliques, ordonne ces relations entre les groupes sociaux de façon plus ou moins égalitaire et hiérarchique. Et donc, ce qui est intéressant à l'éco-citoyenneté, c'est que ça nous permet de questionner deux contradictions constitutives de l'ordre social capitaliste, celle des inégalités d'une part, et celle de l'accumulation illimitée du capital ou des capitaux dans un monde aux ressources naturelles limitées. Bon, alors, on parle tout le temps de problèmes écologiques, de problèmes environnementaux, c'est quelque chose qui va de soi, de qualifier ces problèmes-là d'environnementaux et d'écologiques. Bon. En fait, on peut aussi se dire que ce sont avant tout des problèmes sociaux, bien plus que des problèmes environnementaux, puisque par exemple, avec la question climatique, ce qui est en jeu, ce sont des volumes trop importants d'émissions de gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère. Or, l'ampleur de ces émissions s'accentuerait et s'accélérerait du fait de l'organisation des activités humaines, caractéristiques des sociétés occidentales contemporaines, dont les structures de production et de consommation sont façonnées selon les logiques industrielles et financières, qui imposent un agencement des rapports sociaux sur un mode concurrentiel. Et donc on voit bien que le vrai problème, il n'est pas environnemental, enfin, il est social, c'est un problème social, il devait être des conséquences sur les écosystèmes et les ressources naturelles. Donc ça c'est déjà une première façon de conforter, de conserver, de préserver l'ordre social, le fait de qualifier les problèmes d'environnementaux plus que de sociaux. La manière dont l'éco-citoyenneté conforte un ordre social inégalitaire et pathologique, c'est évidemment lorsqu'elle a pour conséquence de détourner l'attention des causes sociales, politiques, collectives, des enjeux donc dits environnementaux. Premièrement, donc on a affaire à des problèmes publics qui sont fortement individualisés. Hein, les responsables du problème, ben c'est nous tous, c'est les Français, c'est les individus au quotidien dans leur sphère privée, domestique. Et donc le problème n'est plus de l'ordre du débat public, du choix collectif, de l'argumentation idéologique, politique, etc. Donc là on rejoint ce que tu disais Florence sur la dépolitisation. Et la deuxième courroie symbolique de cet ordre social, c'est lorsqu'elle favorise la reproduction de styles de vie pollueurs dont la critique se trouve désarmée justement par cette rhétorique des petits gestes, on verra comment. En tout cas ça aboutit à une conservation, tout ça aboutit à une conservation des modes de répartition des privilèges tout à la fois patrimoniaux et moraux, ainsi qu'à un renforcement des critères établis de la réussite, hein, de ce qui est valorisé, il faut aller vite, il faut avoir beaucoup, etc. Alors, mon propos va s'appuyer sur deux terrains que j'ai menés. Le premier, c'était dans le cadre de ma thèse. Donc, j'ai travaillé sur la construction publique du changement climatique, comment c'est devenu un problème important, mais j'ai également travaillé à la façon dont les individus, les membres des différents groupes sociaux, appréhendaient la question climatique telle qu'elle était cadrée dans le débat public. Donc là, j'avais fait un certain nombre d'entretiens, et j'avais aussi retraité des données statistiques sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Et puis, cette intervention s'inscrit aussi dans le cadre d'une recherche collective financée par l'ANR, donc qui s'intitule « Les ressorts sociaux de la conversion écologique ». On est à mi-parcours. Et donc un travail qui est mené en très grande partie donc, par Mathieu Grosstedt, avec qui je travaille, avec qui j'ai pas mal publié sur ces questions-là, qui est là. Également Philippe Coulongeon et Ivaïlo Petef et Johan Demoli étant là aussi, j'en parlais tout à l'heure, qui sont membres de l'Observatoire sociologique du changement à l'IEP de Paris. Donc, l'hypothèse que je voudrais travailler ici, hein, c'est d'essayer de voir si la rhétorique éco-citoyenne ne met pas l'ordre établi à l'abri des critiques en alimentant le sentiment que les problèmes dits écologiques sont pris en charge, sans qu'il soit besoin de redéfinir en profondeur les modes de production et de consommation dominants, ni la philosophie sociale qui les justifie. Donc, mon propos sera en deux parties. Dans un premier temps, j'essaierai de mettre en évidence le paradoxe social de l'éco-citoyenneté, ce qui implique de travailler indissociablement sur les rapports pratiques et symboliques à ces prescriptions éco-citoyennes, parce que c'est pas la même chose de dire qu'on est soucieux de l'environnement quand on prend l'avion toutes les semaines, qu'on a une villa ou deux à chauffer, à éclairer et qu'on roule en gros cylindré, que de dire qu'on est sensible à l'environnement quand on se déplace jamais, qu'on vit dans un logement exilu, etc. Donc, il est important d'avoir le pratique et le symbolique ensemble. Et puis dans un deuxième temps, je montrerai en quoi l'éco-citoyenneté est, contre toutes les apparences bien soignées, socialement orientée et pas du tout neutre, malgré ce qu'on peut en penser. Parce que ses promoteurs en disent, en tout cas. Alors, bon, je vais passer très vite là-dessus. On pourrait dire plein de choses sur les inégalités d'exposition des agences environnementales, qui elles sont assez bien documentées, y compris en France. Et les inégalités de contribution aux nuisances environnementales, donc qui pollue en fait, et là on a beaucoup moins de données, beaucoup moins de choses. C'est souvent quelque chose qui est passé à la trappe. Or, à mon avis, il faut essayer de penser les deux ensemble. Bon, mais ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est l'idée que plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus on rencontre des individus qui sont, de par leurs conditions matérielles d'existence, disposés à polluer. Et à l'inverse, plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus on rencontre des personnes que je qualifie un peu de c'est un peu essayiste, mais bon, que je qualifie d'écologistes à leur insu. Alors, il faut faire flèche de tout bois avec les données statistiques dont on dispose, c'est pas évident, pour essayer justement de voir comment les pratiques énergétiques ou les pratiques polluantes se distribuent socialement. Alors bon, mais c'est justement d'ailleurs tout le travail des collègues de l'OSC, dont Johan ou Philippe Coulongeon, Ivaïlo Petef, que de dresser justement un espace social des émissions carbone en retraitant des données INSEE. Donc ils sont en cours, j'évoquerai plutôt quelques premiers résultats qu'ils mettent en évidence et qui confirment ce que j'avais pu observer à partir de données INSEE, notamment, ou des données de la Pure aussi, les ateliers parisiens d'urbanisme, etc. Bon. Donc quelques données très rapidement. Bon, alors, en termes d'équipement électroménager, mais aussi en termes d'usage. C'est-à-dire que les cadres et professions intellectuelles supérieures, d'après les données de l'INSEE, déjà sont plus équipés, et puis en plus ça les embête moins de faire tourner de la vaisselle quand il est à moitié plein, alors que dans les milieux populaires, ils sont quand même plus soucieux. Bon, alors c'est des tendances, bien entendu, mais tendance assez forte puisque c'est sur des données INSEE. Pareil pour les multi-équipements automobiles, on a des écarts assez significatifs. Je reviendrai sur la voiture dans un instant. Bon, sur les superficies à chauffer et éclairer, là aussi on a des écarts assez importants entre les deux extrêmes de la hiérarchie sociale. Donc ce que montre Johan, d'ailleurs il a présenté ça ce matin dans un RT, c'est que les consommateurs de 4x4, ils sont pas situés n'importe où socialement, et en plus ce sont de forts consommateurs d'espace. Et puis par ailleurs, il a aussi produit des données produit des données sur les usages de la climatisation, montrant que finalement c'est dans les milieux supérieurs qu'on est le plus dépendant de la climatisation, ce qui renvoie au rapport au corps, à la sensibilité, au sens primaire du chaud et du froid, etc. Philippe Plongeon et Valérie Lopetez, dans un article qu'ils ont sorti récemment dans l'économie et statistiques, montrent également que malgré la banalisation de l'automobile, ça reste, la voiture reste, et les formes d'acquisition et d'usage de la voiture restent des marqueurs sociaux fortement distinctifs. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, et ce qui me semble très important et très difficile à faire, je ne sais même pas si ça serait possible, enfin c'est compliqué en tout cas, c'est de toujours penser ça, j'y reviendrai tout à l'heure, de façon cumulative, pour avoir affaire non plus à des gestes compartimentés, des comportements compartimentés, mais pour pouvoir penser en termes de style de vie au sens de Bourdieu. Alors, on a vu là les inégalités pratiques face aux émissions de l'effet de serre. Maintenant, je vais m'intéresser aux inégalités symboliques face aux normes éco-citoyennes. Ce qu'on a pu observer avec Mathieu Grosstedt, c'est que l'ajustement des principes de... Enfin, c'est que les prescriptions éco-citoyennes sont particulièrement... Enfin, sont mieux ajustées, en tout cas, à l'éthos des classes supérieures. Bon, d'une part, les membres des groupes sociaux privilégiés, qui sont aussi bien souvent assez fortement dotés en capitaux scolaires, font preuve d'une aisance plus régulière à appréhender les dimensions moins immédiates des enjeux. Donc l'environnement, le long terme, le lointain... Ça les gêne pas trop, parce qu'ils voyagent, parce qu'ils peuvent toujours dire bah oui, en Chine j'ai vu ça. C'était moins le cas pour évidemment dans les milieux populaires. Par ailleurs, ces gens-là, les membres de ces catégories sociales-là, affichent avec davantage de constance leur souci leur préoccupation écologique. Hein. Ils font valoir leur bonne conscience écologique, leur bonne volonté écologique, pour reprendre l'expression de Bodlansky dans les années 70. Alors, c'est un extrait d'entretien assez caricatural, mais qu'on retrouve beaucoup, alors peut-être pas de façon aussi explicite, mais alors, je vais vous lire. Donc, c'est un cadre supérieur qui est responsable commercial dans une entreprise informatique, qui travaille dans le 8e arrondissement de Paris, qui habite dans le 7e et qui roule en gros cylindré BMW, mais c'est sa voiture professionnelle et la moins polluante de la gamme, paraît-il. Et donc il me dit, ce n'est pas vraiment le prix qui me fait changer, c'est plutôt la conscience de la pollution. On va dire que j'utilise moins ma voiture pour moins polluer. J'en ai conscience, alors que je ne suis pas persuadé que tous les Français en ont conscience. Ils en ont conscience uniquement par le fait que le prix du pétrole a doublé, voire triplé, et il va continuer à augmenter. Et c'est l'unique cas de conscience, alors que moi, c'est plus un cas de conscience lié à la pollution. Donc... je poursuis là-dessus. Également, dans ces fractions sociales-là, la pédagogie, la sensibilisation, c'est quelque chose qui est tout à fait valorisé, normal, la transmission des bonnes valeurs, l'éducation, c'est ce qu'il faut, hein, les médias, l'école, ça, c'est ce qu'il faut pour promouvoir les comportements vertueux. Donc du coup, l'éco-citoyenneté, ça correspond très bien à ça. Donc voilà, ce chirurgien qui nous dit, il nous faut une éducation, quelqu'un qui dise qu'il y a un dangereux problème aujourd'hui, et comme aux enfants, ça, on apprend l'alphabet, il faudra apprendre les bons réflexes aux gens. Bon. On observe que, et je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure, que les membres des classes supérieures présentent comme général leur intérêt particulier à la réforme lente, douce des mentalités, pour une réforme qui du coup ne stigmatise ou ne dénonce pas trop brutalement leur mode de vie et donc l'organisation sociale qui rend possible ces modes de vie. À l'autre bout de l'échelle sociale, Bon, déjà, on a des discours sur les coûts de l'adoption des comportements promus, le coût du bio, le coût des travaux dans le logement, etc. On a donc aussi une croyance plus forte dans les dispositifs de pénalisation financière. C'est ce jeune ouvrier de plâtrier qui me dit « Je vais te dire quand il fera quelque chose, l'individu, entendu, c'est quand il sera touché au portefeuille. » C'est une question d'argent, quelque part. Donc, dans ces gens-là, quand on leur demande finalement pourquoi ils font des économies d'énergie ou attention à la planète, ben, là, une justification première, c'est une justification évidemment économique. Certains font attention à leur portefeuille plus qu'à la planète, ce qui ne leur empêche pas de faire attention à la planète en même temps. Ça ne veut pas dire qu'ils ont conscience que c'est bien, mais c'est second d'ailleurs le côté écologique. La gratification écologique n'est pas première. Bon. Donc là, je passe vite, je n'ai pas forcément le temps, mais voilà, c'est une discussion entre un employé de mairie et un cheminot. Voilà, en gros, ils discutent sur les coûts économiques des bonnes pratiques écologiques. Donc, alors juste un mot, donc ça c'est, on est encore en train de travailler de ça avec Mathieu, mais c'est sûr, à propos des catégories sociales intermédiaires, bon, ce qu'on observe là, c'est la variabilité des pressions normatives et des différences d'appréhension de l'éco-citoyenneté, selon notamment les trajectoires ascendantes ou descendantes, qui sont qui ont un effet visiblement, il nous semble, assez fort, même si on doit encore creuser ça. En tout cas, ce qu'on a observé, c'est que d'un côté, dans les fractions supérieures des classes moyennes, on a une bonne volonté, avec beaucoup de raisonnements comptables. J'ai fait ça, ça va me rapporter tant, j'ai déduit fiscalement ça, etc. Ça marche bien, on retrouve vraiment ces histoires-là. Et puis, dans les fractions moins inférieures des classes moyennes, c'est une adhésion à Eclipse. Oui, j'ai fait attention. Je fais attention de temps en temps, ou voilà, par phase, mais c'est beaucoup moins soutenu. Bon. En tout cas, pour conclure sur cette première partie, ce qu'on observe, c'est que le faible écho de la rhétorique éco-citoyenne, que rencontre la rhétorique éco-citoyenne auprès des milieux populaires d'une part, et sa congruence avec la morale des classes supérieures d'autre part, aboutit donc à une logique socialement paradoxale, c'est-à-dire que ce sont ceux dont les styles de vie sont les moins respectueux de l'environnement qui sont aussi les mieux disposés à glaner des gratifications symboliques offertes par les prescriptions éco-citoyennes. Et ce, d'autant que, j'en reviens du coup à ma deuxième partie, que derrière l'universalisme affiché par les producteurs de ces discours normatifs, ces discours sont en fait pas neutres du tout, dans la mesure où ils servent les intérêts des catégories qui dominent déjà le jeu social, et ce que je vais essayer de montrer en quelques minutes. Alors ça, je passe, parce que j'ai vraiment pas le temps. Bon, c'est dire que ces producteurs de discours, déjà, ils insistent sur le fait de s'adresser à tout le monde. Directeur de communication de l'ADEME qui me disait « Une bonne campagne, c'est une campagne capable de toucher un maximum de personnes avec un discours qui ne choque pas les plus pauvres ou les plus riches. » Donc c'est tout un tas de dispositifs, comme le climat, le bilan carbone, ou plus récemment le clutch carbone, sont des dispositifs au service de l'homo ecologicus, c'est-à-dire qu'il y a derrière une conception de l'individu qui, s'il est en situation d'information pure et parfaite, va se comporter de façon homo écologique, donc ça, de façon rationnelle d'un point de vue écologique. Donc là, moi j'ai pas mal travaillé sur tous les gens qui construisent ça, ces ingénieurs sociaux qui produisent des études des baromètres ou les psychologues sociaux qui diffusent et qui alimentent, qui donnent une caution pseudo-scientifique à ces raisonnements-là. Mais donc, on insiste sur le fait que l'éco-citoyenneté, ça concerne tout le monde. Donc ça se traduit par une mise en scène assez particulière. On met en scène des individus, enfin une famille, là en l'occurrence, donc ça c'est la campagne, c'est sur le site de l'ADEME, le Clutch Carbone. Donc une famille dont tout indique qu'elle appartient aux classes moyennes supérieures. Voilà, un couple, trois enfants, qui loue un pavillon avec jardinet, qui prend l'avion, mais occasionnellement, de temps en temps, pour partir en vacances, etc. Bon. Donc déjà, voilà, on affiche un universalisme. Ouais, c'est bon. Et donc du coup, toutes les propositions discursives socialement marquées sont systématiquement évacuées de tous ces messages. C'est par exemple le cas d'une campagne dont l'orientation éditoriale aurait consisté à pointer du doigt un attribut distinctif des groupes sociaux les mieux dotés. C'était une campagne dont le slogan était arrêtons de financer l'effet de serre. Il y avait des images de 4x4. Ou une autre campagne qui était finie le 4x4 en ville et qui n'a jamais été produite parce que c'était trop stigmatisant, c'était pas possible pour l'État en l'occurrence là, mais on va voir qu'on retrouve ça dans d'autres lieux de production de ces normes éco-citoyennes. Donc on a une vision asociale du problème qui est renforcée par un discours focalisé sur des comportements isolés les uns des autres. Alors ça ça me paraît assez important. C'est-à-dire que les supports de communication que j'ai étudiés déclinent des messages qui sont toujours dédiés à un geste en particulier, lequel est présenté comme exemplaire. Autrement dit, la manière dont les messages sont mis en forme contribue à partialiser les différents actes du quotidien, s'habiller, se laver, manger, se déplacer, faire ses courses, définir un projet de vacances ou d'investissement immobilier, etc., sont autant de comportements et de décisions qui sont appréhendés séparément. Et donc, du coup... cette logique rhétorique-là, elle n'invite pas du tout à penser justement de façon cumulative les différents gestes, et donc de penser en termes de style de vie, comme je le disais tout à l'heure. Donc au final, probablement parce qu'elle est menée par des professionnels de la sensibilisation appartenant eux-mêmes aux fractions supérieures de la société, cette entreprise de moralisation du quotidien est structurée de telle sorte qu'elle masque les contradictions entre, d'un côté, les valeurs et styles de vie fortement émetteurs de GE, de gaz à effet de serre, mais légitimes dans ces milieux, et de l'autre, la bonne conscience écologique, dont leurs membres se prévalent. Je conclue en deux minutes, juste dire quand même que c'est très important de prendre aussi au sérieux ces choses-là, parce que pour ces gens-là, ils ne peuvent pas entendre, et puis en même temps ils rendent inaudibles les constats d'un conservatisme social matiné d'un fort conformisme, parce que pour eux, ces évolutions, cette modernisation écologique, s'apparentent à de véritables bouleversements. Enfin, quand on discute avec des gens du bâtiment qui doivent revoir toutes les régulations thermiques, etc., pour eux, on a révolutionné la planète, quoi. Donc il faut voir aussi que ça génère des sensations de changement très profond. Et donc pour finir en trois points, si la sociologie a pour ambition de comprendre le fonctionnement du monde social, il me semble dès lors utile de comprendre comment un ordre social se maintient en intégrant et en digérant les tentatives visant à le défaire, ce qui est aussi une façon d'interroger en creux les conditions de possibilité d'une révision substantielle des modes de fonctionnement d'une société. Dans cette perspective, l'éco-citoyenneté permet d'analyser empiriquement les mécanismes par lesquels la critique écologique du capitalisme et des modes de production et de consommation inhérents à ce système peut se retrouver désarmée, cette critique, au profit des hiérarchies sociales existantes et donc des groupes sociaux dominants dont on perçoit qu'ils conservent de la sorte le monopole de la définition des styles de vie valorisés et légitimes. Plus généralement, l'analyse sociologique des problèmes dits environnementaux ne me semble pas pouvoir ne pas poser la question du rapport au capitalisme des agents, pratiques, raisonnements, discours et dispositifs étudiés, sauf à prendre le risque d'être elle-même, cette analyse, pensée par cette idéologie dominante. Je m'arrêterai là. Merci pour votre attention.
Voilà, toujours à l'écoute de Radio Canu, émission Angle Mort. On vient donc de s'écouter une intervention de Jean-Baptiste Combi. Intervention un petit peu rapide, enfin il parlait très très vite, un petit peu comme moi en début d'émission. Donc vous pouvez bien sûr écouter l'émission sur le blog des émissions. Et puis je vous le disais, ce Jean-Baptiste Combi a publié un livre qui reprend un peu ses différents points d'argumentation. Et donc vous pourrez lire chez vous tranquillement, en prenant le temps, donc livre qui s'appelle « La question climatique, genèse et dépolitisation d'un problème public » et qui me semblait, donc ces thèses-là, rapidement présentées, faire un bon contrepoint, enfin dans la continuité en tout cas du livre, la bande dessinée, ou du roman graphique, allons-y, dont je parlais en début d'émission, intitulé « Saison brune par l'auteur Philippe Squarzoni ». Je vous laisse là, je passe un dernier petit titre et puis je laisse la place aux copains et copines de la causerie. Et puis on se retrouve quand on se retrouve sur Radio Canu, émission Angle Mort.
Le soir et promène mon ulcère, en quête d'un peu d'air pur ou d'un coin calme où m'asseoir. Si je marche sans faire d'histoire, limpide et sans mystère, il n'est pas rare que j'entende contre autre identité. Bonsoir. Non, je ne vais nulle part, et puis je n'attends personne. Alors à quoi on me compare?